demain.
Salut, là.
Bye.
Boulevard 102.1. Ils ont dit que la télé allait tuer la radio. 2025, puis on est encore là. Plus fort que jamais.
Ben moi, je finis, là, je sais que c'est long, mais je vous félicite parce que je vous écoute de mon patelin à la Rive-Nord de Montréal. Vous fouillez vos dossiers, vous êtes pondéré, vous êtes critique quand c'est le temps. Moi, j'adore ça. Fait que là, je sais
ben
pas, j'adore
merci,
ça.
Merci, Marc, parce que je sais qu'on est capable d'avoir un échange constructif.
Boulevard 102.1, la radio du futur.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une belle journée. On va passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir, puisque j'ai un bon invité, encore une fois, comme à chaque soir dans ma sous-soir. Humidex de 31, c'est ce qu'on ressent actuellement. On a atteint le 28 degrés, ça a été une super de belle journée sur Québec. Et ce sera une belle soirée. Par contre, ça va se rafraîchir, ça va bien dormir. Donc, un ciel dégagé pour ce soir. Les nuages devraient arriver vers les alentours de minuit, un minimum de 11 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, jour de paix. Maximum de 25 degrés avec le facteur humidex demain. Ça devrait être une température ressentie de 28. Vendredi, c'est une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 21. Et pour ce qui est du week-end, je vous en parle pas encore. Pour l'instant, on nous parle de pluie. Ben oui, ben oui. Mon invité de ce soir, c'est le gars de l'opposition qu'on entend tout le temps jaser dans l'actualité. On vous en parle souvent sur les ondes hertziennes. Monsef de Ragy, c'est le député de Nelligan. Donc, c'est un gars qui est à Montréal, mais qui travaille tout le temps à Québec à l'Assemblée nationale. C'est le leader parlementaire du Parti libéral du Québec. On passe 60 minutes avec lui où on parlait de dossiers d'actualité, mais aussi de trucs qui le concernent personnellement. Donc, bonne écoute. Bienvenue dans Marceau ce soir, si c'est ta première fois. On me dit que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, voilà, je suis ton fils. Au cas où tu ne savais pas. Donc, bonne écoute, les amis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Monsef de Ragy, comment allez-vous?
Ça va très bien. Et vous, M. Marceau, merci pour l'invitation encore une fois.
Merci de vous être rendu disponible. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe?
Ben écoutez, on dirait qu'il y a une invasion de camionneurs qui aussi s'inquiète de l'absence de mesures de la part de Mme Guilbeault par rapport à leurs préoccupations. D'ailleurs, je pense qu'ils sont venus dans mon bureau il y a quelques semaines pour me dire, écoute, là, on entame une démarche de sensibilisation des élus. Je les ai reçus, ils m'ont partagé une très bonne lettre où ils expriment leur mécontentement par rapport à tout ce qui se passe au niveau du ministère des Transports. Mais est-ce que vous êtes étonné que ça ne marche plus au ministère des Transports? Il n'y a rien qui marche!
Ben, en fait, je vais vous avouer quelque chose, M. de Ragy. Hier ou avant-hier, là, j'étais un peu perdu dans le temps, mais je regardais l'actualité pour la région de Montréal. On parlait de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et de voir qu'il y avait un contrat qui avait été octroyé pour vérifier si la clôture qui retient les briques tient encore en place, je me suis dit, on a atteint le bout du bout. Là. On est en train de vérifier si la clôture qui retient les briques, donc la structure externe de la bâtisse, on est en train de vérifier si la clôture tient le coup pour pas que les briques tombent sur la tête des gens qui sont en dessous. C'est hallucinant, M. de Ragy. C'est hallucinant.
Ben, vous avez raison et ça se confirme au niveau des intentions de vote par rapport à ce gouvernement. C'est la fin du régime de ce gouvernement. Écoutez, c'est très simple. Ce gouvernement caquiste a déposé 7 budgets. Sur les 7 budgets, 6 sont déficitaires. Donc, ce sont malheureusement des comptables qui ne savent pas compter. Ils nous ont fait perdre beaucoup d'argent dans des promesses électorales, dans des bibites qui ne fonctionnent pas, Northvolt, le panier bleu, l'homme fort, le super ministre, a dilapidé l'argent public à droite et à gauche. Et on se ramasse malheureusement avec une fin de régime ou un gouvernement qui n'a plus l'argent, mais encore, il s'est fait taper par une agence qui l'a malheureusement décoté. Donc on récolte le gouvernement récolte ce qu'il a semé depuis 7 ans.
On va parler de plein de sujets avec vous, mais parlons des camionneurs. Il y a de ça quelques semaines, vous avez déposé un projet de loi pour proposer de modifier le Code de la sécurité routière afin de permettre à la Société d'assurance automobile du Québec de conclure des ententes avec d'autres ministères ou organismes pour appliquer diverses lois, notamment celles sur l'impôt, l'immigration, les normes du travail, la santé, la sécurité et le travail, ainsi que les lois sur le transport, bien entendu. On est rendu où avec ce fameux projet de loi-là?
Silence radio de la part de la ministre Guilbeault. Et d'ailleurs, encore une fois, merci pour cette question, parce qu'il y avait une émission enquête sur le réseau québécois qui ont démontré le stratagème de Chauffeur Inc. Et souvenez-vous, il y a eu même un décès au Québec dû à ce phénomène où on voit des gens qui viennent d'un peu partout, surtout de l'Ontario, où il y a une pratique, une concurrence déloyale, des gens qui ne suivaient pas des formations. J'irais même, la ministre Guilbeault disait l'année dernière, Non, ça va être obligatoire, les formations. Écoutez, là, jusqu'au mois de mars de cette année, il n'y a rien qui a bougé. Donc, le projet de loi, je l'ai déposé parce qu'il y avait un enjeu majeur en ce qui concerne les chauffeurs Inc. Ça touche nos routes, ça touche la sécurité, ça touche aussi les revenus de l'État.
Ouais.
Mais figurez-vous, le gouvernement n'a rien fait. Madame Guilbeault, ce dossier, ça ne l'intéresse pas. Il est sur sa table depuis des mois et des mois. Et malheureusement, ça manque de leadership. Vous avez vu, l'industrie du camionnage au Québec souffre beaucoup. Ce n'est pas uniquement l'association des transporteurs qui manifeste aujourd'hui au niveau du Parlement. Ça, c'est un autre problème. Mais l'industrie du camionnage mérite beaucoup plus d'amour de la part du ministère des Transports et surtout de Mme Guilbeault.
Puis qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé justement à ce dossier-là de camionneur Inc.?
Ben, j'étais sensible à la question parce que avant que l'enquête sorte par vos collègues à LCN, l'émission Enquête, j'ai rencontré l'Association des camionneurs. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont sensibilisé par rapport à cet enjeu. Je l'ai vu, ça touche les revenus parce qu'il y a une concurrence déloyale par des chauffeurs qui viennent d'arriver, qui ne savent pas conduire sur nos routes, qui travaillent avec des compagnies en Ontario. C'est une pratique connue dans le monde du transport au Québec, là. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Le monde de transport des camions est au fait, est au courant de ce phénomène. Mais malheureusement, j'ai deux ministres, même trois. Le ministre Jean Boulet a essayé, il essaye, il les a rencontrés. Il y a un enjeu au niveau de la CNSST. Mais malheureusement, le fardeau repose sur Mme Guilbeault. Mais encore une fois, écoutez, je cherche encore une fois quel projet Mme Guilbeault a fait avancer en transport. Je vais continuer ma recherche parce que je ne le trouve pas.
C'est une bonne nouvelle pour vous puisque dans l'opposition, vous avez énormément de travail. Là. On vous voit travailler énormément. S'il y en a un qui fait jaser de lui sur les ondes de radio à la grandeur du Québec, dans les journaux ou encore à la télé, c'est bien vous parce que vous semblez être de tous les dossiers. Entre autres, du dossier de Saclic là, avec l'enquête, la commission qui vient d'être mise en place. On espère quoi après cette commission? Là, Monsieur Draghi?
Ben, premièrement, que ça ne se reproduise plus, parce que je tiens malheureusement à le dire, nous avons déjà perdu 500 millions de dollars et ça risque d'être, la facture risque d'être beaucoup plus salée parce qu'ils n'ont pas terminé toutes les livraisons. Vu le manque d'argent, ils ont arrêté la livraison 2. Il n'y aura pas de livraison 3 et il y a deux systèmes qui nous coûtent cher, notamment le système ancien qui est complètement désuet. J'ai posé la question au PDG de la SAC la semaine dernière et il m'a confirmé que ça coûte 10 millions de dollars l'entretenir annuellement. Donc, c'est un coût supplémentaire que la SAC doit absorber. Et donc, le gouvernement est en train de faire, de gérer beaucoup de projets de transformation numérique. Au moment où on se parle aujourd'hui, vous avez vu le dossier numérique. C'est sur toutes les tribunes. On est à 12%. Et on a dépassé plus de 50% du budget qui est de 250 millions de dollars. Ça risque d'être un autre scandale à l'image de Saclic. Donc, on risque de dépasser le 1 milliard à la fin du projet. Donc, ça démontre encore une fois, le gouvernement est incapable de suivre les plus grandes transformations numériques de l'État québécois. Est-ce qu'on évalue mal? Est-ce qu'on ne fait pas les suivis nécessaires? Est-ce que c'est un laisser-aller? Est-ce que c'est un manque de leadership? J'espère que la commission d'enquête de l'honorable Gallon va nous le démontrer. Mais encore une fois, M. Marceau, permettez-moi de vous ramener la réflexion suivante. Les Québécois ils n'ont pas voté sur des fonctionnaires. Hein. Les fonctionnaires sont là. Les Québécois délèguent la gestion de leur argent à un gouvernement. Et au bout de l'année prochaine, les Québécois vont voter pour est-ce que le gouvernement a bien géré leur argent ou pas. Donc j'espère que M. Legault va donner suite aux recommandations de la commission Gallon et démontrer que l'imputabilité, ce n'est pas juste un slogan. J'ai des ministres qui n'ont pas fait leur travail. J'ai des ministres qui n'ont pas suivi tout ce qui se passe au niveau de la SAC. Et à un certain moment, là, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'autre et ce n'est pas de leur faute. Là. C'est un gouvernement qui, là, depuis 7 ans, ni M. Bonnardel ni Mme Guilbeault n'ont pas levé le doigt par rapport à ce qui se passait, ce qui circulait au niveau de la SAC. Et vous avez vu la conclusion, malheureusement, du vérificateur général.
Oui, puis on va parler de ça, de l'implication des politiciens dans ces dossiers-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait appel à des firmes privées pour bâtir des appels d'offres et qu'ensuite, de l'autre côté, cette même firme privée-là qui a bâti l'appel d'offres, ben, désire soumissionner pour le même contrat? Si c'était dans des pays extrêmement corrompus, M. Doragie, je me dis, bon, ben, c'était des pays corrompus, c'est pas si grave. Mais chez nous, on a l'impression qu'il y a un système de surveillance qui est mis en place, qui fait en sorte qu'une entreprise qui travaille pour bâtir l'appel d'offres, ben, ne remporte pas officiellement ou très rapidement, comme ça s'est fait, avec la meilleure des soumissions. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est des appels d'offres qui sont dirigés. Puis, on est dans le public ou dans le payeur chez les payeurs de taxes, on se dit « Eh, tabarouette, ça a des apparences de collusion, ça a des apparences de corruption. Est-ce que... Y a-t-il une autre façon de faire? Pourquoi nos fonctionnaires ne sont pas capables de bâtir des appels d'offres, M. Doragie?
Ben, c'est très préoccupant et je me questionne sur le rôle du conseil d'administration parce que le rôle du conseil d'administration, c'est de s'assurer que les bonnes pratiques en matière de gouvernance soient là. Donc, c'est très inquiétant qu'une société d'État a pu écrire un peu l'appel d'offres avec une compagnie qui elle-même a gagné l'appel d'offres. Donc, j'espère que la commission Gallon va nous éclaircir par rapport à ça parce qu'il ne faut pas, au bout de la ligne, M. Marceau, que les Québécois se ramassent à payer une facture salée parce que celui qui a gagné l'appel d'offres a participé à la rédaction de l'appel d'offres. Est-ce que la SAC avait le choix? Est-ce que la SAC a tout fait pour mettre éviter les conflits d'intérêts? J'espère. Parce qu'au bout de la ligne, c'est les Québécois qui payent ces frais. Donc, j'espère que la commission Gallon va aller jusqu'au bout de nous démontrer ce qui s'est passé réellement pour qu'on tire les leçons. Parce qu'on n'est pas... On est au début des transformations numériques. Je pense qu'on est vraiment au début. Ce n'est pas uniquement la SAC, l'enjeu. Il y a d'autres projets de transformation numérique au niveau de le ministère de la Justice et aussi au niveau de la Santé. Donc, j'espère qu'on ne va pas se ramasser avec des factures salées à chaque fois. Permettez-moi, je vais juste boire de l'eau.
Il n'y a pas de problème. Mon chef de régie, c'est quoi la capacité d'intervention du politicien qui est responsable de son ministère? En parlons entre autres d'Éric Kerr. C'est quoi sa capacité d'intervention dans un dossier dont il ne connaît pas nécessairement tous les paramètres? Bon, Éric Kerr a une certaine formation en informatique, mais il a acquis cette formation-là dans un collège privé. C'est pas quelqu'un qui est à l'université pour prendre un bac en informatique puis qui est un génie au niveau de la programmation. C'est quoi sa capacité à intervenir dans des dossiers qui vont bien ou qui vont mal?
C'est une très, très bonne question. Et ça ramène sur la table l'enjeu du contrôle et du suivi des projets informatiques. L'État québécois a entamé une panoplie de transformations numériques et vous allez me pardonner, c'était nécessaire et c'est nécessaire. Écoutez, si on veut réduire la bureaucratie, écoutez, quand on voyage à l'extérieur, j'ai eu à parler avec des entrepreneurs, ils m'ont montré sur leur cellulaire l'ensemble des accès à une panoplie de ressources gouvernementales. Ils ne sont même pas obligés de se déplacer. Ils peuvent tout commander en ligne. Malheureusement, au Québec, on est dans le principe de ça ne prend un point de service un peu partout. Donc, ça questionne l'efficacité gouvernementale. Ça questionne aussi le nombre de fonctionnaires qui est très élevé dans l'appareil gouvernemental québécois. Donc, soyons juste d'accord, sur une chose extrêmement importante. La transformation numérique, c'est nécessaire. Que ce soit au ministère de la Justice, ou au niveau de la Santé, ou au niveau de la SAC, ou au niveau des autres services, où vous et moi, on les sollicite. Maintenant, l'enjeu majeur, c'est que chacun travaille dans un coin et ce n'est pas sa mission principale. Je prends n'importe quel ministère, sa mission, c'est livrer des services. Ce n'est pas offrir autre chose que le service dont il est responsable. Maintenant, au niveau des grands projets de transformation numérique, ça a été démontré que M. Éric Kerr voyait les projets, avait un tableau de bord, il voyait les lumières rouges, ça a été démontré par l'actuel ministre de la cybersécurité, M. Gilles Bélanger, qui disait, écoutez, je ne peux pas intervenir, je ne peux pas arrêter le projet. Donc, je me demande, qui a créé le ministère de la cybersécurité? C'est la CAQ. La première loi, c'est la CAQ. Donc, est-ce qu'on voulait juste, d'une manière symbolique, dire qu'on a un ministère de la cybersécurité? Parce que, rappelez-vous, quand il était dans l'opposition, M. Legault, il disait « je vais arrêter le bordel informatique ».
Oui.
Ben, il ne l'a pas arrêté, malheureusement. Donc, ni la création du ministère de la cybersécurité a réglé ce problème. On voit les dépassements de coûts dans la SAC et maintenant dans le ministère de la Santé avec le nouveau projet et le nouveau scandale qui a éclaté aujourd'hui. Donc, je me demande moi-même, ça sert à quoi le ministère de la cybersécurité? Maintenant, dans le cas de la SAC, excusez-moi de vous rappeler une chose importante, c'est la ministre Guilbeault et avant elle, M. Bonnardel, qui était responsable de la Société d'État. La Société d'État, elle est sous la tutelle du ministère des Transports. Normalement, le cabinet de Mme la ministre doit être en contact avec le président de CA et avec le PDG. Si tu as un projet qui vise la plus importante transformation d'État, normalement, ils auraient dû avoir ce qu'on appelle des statutaires, des réunions statutaires, où la ministre est tenue au courant et ne pas attendre l'éclatement d'un scandale ou l'arrivée du vérificateur général, informer la population de l'état des lieux de ce projet. Chose qui n'a pas été faite et on a vu le laisser aller de même M. Bonnardel qui, à un certain moment, disait qu'il était fâché, qu'il a quitté la réunion, qu'il a demandé des comptes, mais après, il y avait le fractionnement des contrats, il y avait la campagne électorale. On ne sait plus ce qui est arrivé pendant la période de 2022.
Quand on a mis en place SACLIC, bon, ça a donné lieu à un fiasco, là, ce qui fait en sorte que le Québec a été paralysé au niveau de l'immatriculation et tout ça. Les concessionnaires automobiles ne savaient plus où donner de la tête. Il y a des gens qui voulaient payer leur permis de conduire. Ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, c'est Geneviève Guilbeault qui rédigeait elle-même les tweets là, pour essayer d'aider de quelconque façon que ce soit. Ça fait broche à foin un peu. Mais est-ce que quand on est le politicien qui est responsable du ministère, quand on est le ministre des Transports, exemple, puis on voit que ça commence à chirer un peu le fameux projet, est-ce qu'on peut intervenir très rapidement dans le dossier? Exemple, dans le dossier de SACLIC, le programme qui était en place, c'est un programme qui existait depuis la Payette. Madame Payette, je pense que c'est 1978-1979. C'est un programme informatique qui était là puis qui a duré des décennies et des décennies. On savait qu'il était vieux, mais il fonctionnait bien. Puis on le gardait en place, ce fameux programme à la Société d'assurance automobile du Québec. Puis à un moment donné, on a dit, ça nous prend un nouveau programme puis on va installer le SACLIC et tout ça. Mais il n'y a personne qui a pensé, ou du moins peut-être accepté, de faire rouler l'ancien système en dessous, mon chef de régie. Ils ont pris une décision, c'est non, quand le nouveau programme va arriver, on va le mettre en place, puis ça va fonctionner. Oui, mais il n'y a pas personne qui a levé un flag en disant, oui, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut retourner sur l'ancien système? Quand j'ai parlé avec le porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec, ils n'ont pas toutes les réponses à toutes, mais en fait, ils répètent ce qu'on leur dit de dire. Eux, ils ont dit, c'est une décision d'entreprise comme quoi on allait faire le switch automatiquement et que ça allait bien aller qu'on allait vivre avec les problématiques, si problématiques il y avait. Mais est-ce que le ministre aurait pu arriver dans la réunion et dire « Non, moi, j'aurais aimé qu'on ait un système de dépannage. Si jamais le nouveau système qu'on met en place, on peut faire rouler le Québec sur l'autre système. » Est-ce qu'il a la capacité de faire ça, le ministre?
Ben, écoutez, dans une relation avec une société d'État, normalement, le PDG ramène l'ensemble de la situation et informe régulièrement son ministre ou le sous-ministre. De ce que je comprends du scandale de SACLIC, les tests n'étaient pas concluants. il n'y avait pas l'ensemble des tests, parce que prenez n'importe quelle transformation numérique, la base, c'est tester ton système. Et est-ce que le système était prêt à être testé à travers tout le Québec? Écoutez, j'espère que la ministre a posé ce genre de questions, parce que c'est bien beau faire des communications, parce que la ministre, je lui donne, elle est très forte au niveau de la communication. Regardez ses réseaux sociaux, il est bon, il fait ça très bien. Je ne peux pas lui enlever ça, je lui donne un triple A+. La même chose, au lieu de se poser les vraies questions, je ne pense pas la ministre que c'est son rôle d'écrire des tweets à la SAC.
Exact.
Donc sa préoccupation était quoi? Son image, qu'elle gère sa fougère. Et ça, c'était trop tard, gérer la fougère après le fiasco. C'est qu'on vient te dire, écoute, on s'en va vers un lancement big d'une nouvelle structure informatique qu'on a travaillé depuis plusieurs années. Je ne sais pas quelle question Madame la ministre a posée. Est-ce que vous êtes prêts à tout fermer pendant 3 semaines? Est-ce qu'ils ont surestimé ou sous-estimé le fait que pendant 3 semaines, il va y avoir un achalandage très élevé après? Vous savez que c'est une structure où tu dois créer ton compte, recevoir un code. Une fois que tu as le SACLIC, après, tu peux utiliser le service. Écoutez, regarde le niveau d'intégration de l'Internet un peu partout au Québec, la facilité que les gens ont avec l'accès en ligne. Donc, tout ce genre de questions, je ne sais pas si la ministre l'a posée ou bien on l'a induit en erreur. Je n'étais pas là avec elle, ni avec les rencontres avec la SAC, ni avec l'ancien PDG. Mais clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Donc, oui, le rôle du politicien est de s'assurer qu'on est prêt. Donc, Madame la ministre, j'ai la preuve pour vous. Vous savez, elle était où pendant le lancement de SACLIC? Elle était en tournée en Europe, en France et en Suède. Donc, elle était tellement sûre que ça allait très bien que pendant le lancement de SACLIC, il a quitté pour une mission en France et en Suède. C'était public. Et il a écourté vers la fin pour revenir parce que c'est devenu une bombe médiatique. Il fallait quelqu'un pour contrôler. Et ce qu'on a dit, c'est Éric Kerr. Mais voyons donc, ce n'est pas Éric Kerr qui est ministre responsable de la SAC. C'est Mme Guilbeault qui est responsable de la SAC. Donc, on lui a présenté le projet. Est-ce qu'elle a posé des questions ou pas? On ne le sait pas. J'espère que M. Galland, quand il va l'inviter, il va lui poser la question. Est-ce que vous étiez rassuré? Quelles questions vous avez posées? Est-ce que vous avez demandé des tests? Est-ce que vous avez donné le go pour que le lancement soit fait? Et écoutez, dans tout ça, il y a une compagnie qui s'appelle LGS de IBM. Est-ce que LGS IBM est une compagnie pas crédible? Est-ce que LGS IBM a donné son accord aussi? Est-ce que LGS IBM était d'accord pour le lancement? Qui a pesé sur le piton pour dire « Non, on lance, ça clique, on est prêt ». Toutes ces questions, j'espère que l'honorable Galland, quand il va avoir avec lui ceux qui étaient responsables sur le lancement de sa clique, va leur poser ces questions. Ouais. La même chose pour Mme Guilbeault. Mme Guilbeault a quitté le Québec juste au début du lancement de sa clique. Moi, ce que ça m'envoie comme message, elle était rassurée que ça va bien aller.
Mon chef de régie, en tant que leader parlementaire, est-ce que vous avez accès aux retranscriptions de ce qui se dit entre les ministres et les différents administrateurs des sociétés d'État?
Écoutez, la loi sur l'accès à l'information est une loi extrêmement complexe. J'ai fait des demandes pour les PV des conseils d'administration et vous avez vu, j'ai pas mal utilisé ça. Il y a pas mal de choses caviardées. Il faut être hyper intelligent pour lire entre les lignes et essayer de décoder quelque chose. On ne peut pas savoir ce qui a été dit entre la ministre et les textos, etc., à moins que, écoutez, dans le cadre de la commission Galland, j'espère que l'honorable Galland va poser toutes ces questions, parce que le fiasco, c'était pendant le règne de Mme Guilbeault, le fractionnement des contrats était pendant le règne de M. Bonardel. Donc, je m'attends à voir ces réponses, parce que tout ça, tout ce fractionnement de contrats et le lancement de fiasco étaient là les 7-6 dernières années.
Ce matin, je regardais le bureau d'enquête de Québecor qui travaillait sur le dossier des payes pour les employés en santé. Puis on parlait d'un projet d'informatique de 202 millions de dollars. Après ça, ça a passé à 430 millions de dollars. Et selon ce qu'on croit, ça pourrait grimper jusqu'au milliard, tout comme le fiasco de SACLIC. Qui doit payer en bout de ligne de ça? Ouais. Est-ce que c'est le conseil d'administration? C'est-tu le politicien qui est en haut qui, bon, a de vagues connaissances là, de comment faire un système informatique, mais qui n'est pas le spécialiste? Pourquoi les têtes ne tombent pas?
Ouais. Bon, très bonne question. Encore une fois, c'est de ce projet que je mentionnais il y a tout à l'heure parce que c'est sorti aujourd'hui. Le projet de paye à Santé Québec a été initialement lancé à 400 millions de dollars. En date d'aujourd'hui, on est rendu presque à 200 millions, mais à 12 % de réalisation. Donc, encore une fois, clairement, on va dépasser le montant de 400 millions. Ça là, c'est, il n'y a aucun doute que ça va être probablement pire que ça clique. C'est là où on se pose la question. Qui surveille les projets de transformation numérique dans ce gouvernement? Parce qu'au bout de l'année, M. Marceau, là, c'est l'argent des Québécois. C'est facile de dire à Santé Québec et M. Dubé, qui est ministre de la Santé, « Ah, ce n'est pas ma responsabilité. » Santé Québec va vous dire, « Moi, je viens d'être créé. J'ai hérité ça du ministère. » M. Bélanger va vous dire, « Je n'ai pas de pouvoir. Ce n'est pas moi qui le gère. » Bah, probablement, les trois, ils ont raison. Mais c'est anormal que M. Legault, qui chapeaute et qui est le patron et le boss au Québec, voit ce genre de transformation numérique et ne pas agir. Si tu as ça dans le secteur privé, des gens vont être renvoyés parce qu'on ne peut pas tolérer des dépassements de coûts de 100, de 200, de 300 %. J'ai travaillé dans le secteur privé. Les gens qui travaillent dans le secteur privé savent ça. On te donne un budget, trimestriellement, il y a des états financiers et des états de résultats et un suivi de tes projets. Si tu veux augmenter ton budget, tu as toute une procédure pour le faire et justifier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de dépassement de coûts ni de demande supplémentaire du budget, mais il faut le justifier avec des procédures. Mais force est de constater que dans ce gouvernement, il n'y a personne qui élève le drapeau, il n'y a personne qui est capable de dire « enough is enough », on arrête ces projets. Donc, on l'a vu qu'avec sa clique, on va le vivre avec le système. C'est vrai, je pense, avec le ministère de la Santé. Et il y a un autre projet de transformation qui est au ministère de la Justice. Donc, pendant qu'on coupe partout dans les services, pendant qu'on est au sixième budget déficitaire, pendant qu'on a 13 milliards de déficit, M. Legault, au sein de son gouvernement, le patron au Québec, ne sait pas comment arrêter des projets avec des dépassements de coûts. Ce n'est pas uniquement au niveau des projets informatiques, M. Marceau. La semaine dernière, au ministère des Transports, j'ai analysé 23 projets, des ponts, des routes, en maritime, transport collectif, les routes. Sur 197, si ma mémoire est bonne, projets présentement, j'ai analysé 23, j'arrive à un dépassement de coûts de presque 900 millions de dollars. En date d'aujourd'hui, 900 millions de dollars, c'est devenu, permettez-moi de le dire, un dépassement systémique, un dépassement de coûts systémiques sur l'ensemble de nos infrastructures. Mais voyons donc, à un certain moment, qui va arrêter ce bar ouvert? Et vous avez vu la mairesse de Longueuil qui a fait une excellente sortie, un feu rouge à 500 000 dollars, un demi-million. Alors, M. Marceau, à un certain moment, là, c'est votre argent et l'argent des gens qui nous écoutent.
Exact.
Est-ce qu'il y a un patron au Québec qui va dire « assez, c'est assez »
Est-ce que c'est compliqué de mettre un sous-ministre dehors ou un haut fonctionnaire qui sont responsables de ces dossiers-là au Québec? Est-ce que c'est possible de le faire? Parce que bien souvent, ce qu'on nous dit, hey boy, mettre dehors un sous-ministre, là, ça n'arrive pas. Un haut fonctionnaire, ça n'arrive pas. Mon chef de régie, dans toutes les entreprises du Québec, là, quand c'est privé, ça existe l'incompétence. Est-ce qu'au gouvernement, ça existe l'incompétence? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un dehors pour incompétence? Visiblement, le projet devait coûter 500 millions. Là, on est rendu à 1 milliard. Il y a quelqu'un qui a mal évalué la patente. Oh, c'est un haut fonctionnaire. Merci, bye-bye. On passe à un autre appel. Pourquoi on n'est pas capable d'y mettre dehors?
Ben écoutez, c'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de réponse parce que je ne connais pas assez la machine gouvernementale pour pouvoir aujourd'hui vous dire, écoutez, c'est la responsabilité du sous-ministre ou des ingénieurs ou des évaluateurs. La machine, elle est tellement complexe et grande que je ne sais même pas c'est qui la personne la plus responsable dans tout cela.
Parce que le conseil d'administration de la SAAC, on a déplacé le monsieur qui était responsable, puis on lui a donné une job encore plus payante par la suite. Attends un peu, là. On le déplace parce qu'on dit qu'il y a eu de l'incompétence dans le dossier. On essaye d'en faire une tête de turc, puis finalement, en douce, on lui donne une job encore meilleure que celle qu'il y avait avant. C'est de l'hypocrisie crasse, là.
Oui, et le secrétaire général qui, lui, a reçu la délégation de la SAAC suite à la demande de Mme Guilbeault, qui était le bras droit de M. Legault, et pour le remercier de ses services, et les PDG de l'Autorité des marchés financiers. Donc, probablement, la machine se protège. Probablement qu'on change de chaise d'un endroit à un autre pour permettre aux gens de se protéger et aussi de continuer à travailler à l'intérieur de la machine. Mais il faut absolument arrêter ce bar ouvert. Écoutez, on n'a plus les moyens de continuer à accepter systématiquement des dépassements de coûts. Je l'ai mentionné au niveau de SACLIC, le projet au niveau de Santé Québec et l'ensemble des projets routiers. Jamais un projet, et je retire jamais, une bonne majorité des projets ne se terminent pas avec le même montant initial prévu. Donc, il y a quelque part un laisser-aller. Et écoutez, c'est des marges énormes. Quand on termine le projet avec 2-3 fois le prix, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui n'a pas été bien fait et réalisé.
Quand vous avez ouvert le journal aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé à croire au sondage, mon chef de Ragy?
Ah, écoutez, je ne commente pas les sondages. Les sondages changent chaque jour. La seule chose que je commente et que je contrôle, c'est notre travail au Parlement. Oui. Nous avons une équipe formidable. On essaye d'honorer le mandat que les Québécois nous ont donné. C'est contrôler l'action gouvernementale. Malheureusement, on n'est pas là pour juste jouer le rôle de l'opposition officielle, mais aussi en tant qu'opposition qui a aussi proposé des choses aux Québécois. Écoutez, c'est ce que j'ai à dire par rapport au sondage.
Mais le Parti libéral est rendu en deuxième position, donc vous êtes à quelques pourcentages du Parti québécois. Si on en croit le sondage qui est paru ce matin, c'est peut-être signe que vous faites une belle job. Puis je salue Marc Tanguay, que j'aime beaucoup. Là, on ne sera probablement jamais dans la même famille politique, mais j'aime bien Marc Tanguay. C'est un gars qui est comme vous exactement, en fait. Un gars avec qui on peut jaser, on peut échanger. Puis s'il y a des points de désaccord, ben c'est pas plus grave que ça. On peut garder nos opinions sans se détester pour autant. Je trouve qu'il fait une bonne job comme chef par intérim et j'ai bien hâte de voir qui va prendre sa place. Le défi des libéraux à la grandeur du Québec, ça va être quoi pour aller chercher les endroits peut-être un peu plus éloignés, les régions?
Parler plus avec les régions, les francophones. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Mon collègue Marc Tanguay fait un excellent travail. Ce n'est pas facile d'être chef par intérim et je saisis l'occasion avec vous de lui dire merci pour son travail. C'est un travail ingrat. Écoutez, je suis dans l'intérim aussi avec notre chef, Marc Tanguay, qui fait un travail exceptionnel, vous avez raison. Le Marc que vous avez dans vos studios, c'est le Marc que je connais quotidiennement. C'est un gars drôle, travaillant, un gars d'équipe, un gars qui a le cœur à la bonne place et qui pousse les gens à se dépasser et à sortir le max d'eux-mêmes. Donc, nous sommes chanceux. Avec Marc, et vous l'avez très bien dit, les choses s'alignent pour qu'on ramène le bateau au prochain chef, parce que l'intérim, c'est ça l'inconvénient. Il faut s'assurer que l'ambiance et la cohésion, elle est là, et Marc l'a démontré. Maintenant, c'est le rôle du prochain chef de faire ce qu'il doit faire, c'est être la vraie alternative à François Legault. Et le défi qu'on va avoir, le parti de M. François Legault est en fin de régime. Nous organisons beaucoup de tournées dans les régions et laissez-moi vous dire que la fin des crédits, j'étais à Rivière-du-Loup. Et les gens me l'ont dit clairement, alors c'est fini la CAQ, parce que ce qu'ils ont fait pour la région, c'est inacceptable. Ne pas écouter la population locale, dire qu'il n'y a pas une mobilisation, or qu'il y avait une mobilisation extraordinaire. Donc, notre défi pour les prochains mois, c'est revenir à la base, faire du travail terrain, écouter nos régions. Et dans nos régions, ben, on va s'approcher davantage des francophones. Mais on le sait, il y a une chose, que c'est la fin d'un régime caquiste maintenant. Cette option que M. Legault a vendue aux Québécois en 2018 ne tient plus la route. Et il a dilapidé leur argent, Ils n'arrivent pas à offrir des services de qualité en santé, en éducation, mais pire encore, ils ne créent plus la richesse. Ce n'est pas le parti de l'économie. Vraiment, ce n'est pas le parti de l'économie. Et on l'a vu, l'échec de M. Fitzgibbon, qui, lui, a quitté rapidement. Il ne voulait pas être associé à l'échec caquiste avec la fin du régime. Et même M. Dubé, il ne renouvelle pas son mandat. Il sait quel héritage il va laisser en matière de santé. Donc, écoute, ils ont échoué en matière de création de richesse. Ils ont échoué en matière économique et pire encore, en matière de services essentiels de l'État, que ce soit en santé ou en éducation, les résultats ne s'améliorent pas. Là.
J'ai le goût de vous poser des questions concernant la partielle qui aura probablement lieu dans Arthabasca dans les prochaines semaines lorsque François Legault les déclenchera. Il y a eu, il y a de ça quelques années à Québec, le fameux sommet des Amériques en 2001, le 20, 21 et 22 avril 2001, puis on faisait les pourparlers concernant une proposition de zone de libre-échange des Amériques, dont c'était la ZLEA de mémoire. Et bon, il y avait des manifestants, et parmi ces manifestants-là, il y avait quelqu'un avec ses amis qui voulait commettre des méfaits. Et par la suite, bon, ce groupe-là a été infiltré par la Gendarmerie royale du Canada. On aurait demandé à un policier qui était infiltré à savoir s'il était prêt à transporter des cocktails Molotov. On avait suffisamment de preuves pour mettre en accusation des individus. Parmi ceux-ci, il y en a un qui est sorti du lot. Il était vu, selon la GRC, comme le chef de cette cellule-là qui voulait commettre des méfaits. Et il a été déclaré coupable. Il a été en prison pendant une quarantaine de jours de façon préventive. Et le juge l'a condamné à purger une peine dans la collectivité par la suite. Sachant ce qui s'est passé à Victoriaville il y a de ça quelques années, où il y a eu une énorme manifestation, les gens de Victoriaville ont été frappés par cette manifestation-là qui a brassé pas mal. C'était-tu vraiment le meilleur candidat pour le Parti québécois à présenter dans Arthabasca, le Morning Man de Radio-Canada, Alex Boissonneau?
Écoutez, je ne suis pas péquiste, je ne suis pas PSPP. Donc
vous me surprenez.
Le choix du candidat revient à M. PSPP et au Parti québécois. Et vous savez quoi? Nous sommes dans une démocratie.
Oui.
Si les gens de Victoriaville pensent qu'il n'est pas le bon choix, ben, ils savent quoi faire. Il va y avoir un bulletin de vote. Ils vont choisir le Parti libéral qui va être prêt pour prendre la relève en 2026. Et ils vont envoyer un libéral pour représenter les PME et les gens d'Arthabasca. C'est ma réponse.
Qui est-ce qu'on va présenter dans Arthabasca du côté des libéraux?
Alors, j'en suis sûr et certain qu'on va avoir un bon candidat.
Ouais, vous ne pouvez pas en vouloir de vous poser la question, mais tu sais, moi, je crois que quelqu'un peut se réhabiliter. Je crois qu'on peut faire des erreurs vie, mais il y a des choses que je pardonne un peu moins. Tu sais, quand on veut commettre des méfaits qui auraient peut-être pu blesser des gens, tu sais, un cocktail Molotov, parce que j'ai lu les articles de la presse ce matin, puis je comprends qu'il y a beaucoup d'amitié là-dedans, puis on y va avec des pincettes, mais un cocktail Molotov n'a jamais fait fondre une clôture en métal. Donc, le cocktail Molotov était certainement pas pour la fameuse brèche qu'on voulait causer dans cette clôture-là, qui finalement, après 30 secondes, était tombée. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, mais je répète, je crois que quelqu'un qui admet ses torts puis qui veut redevenir un bon citoyen, ben, on doit lui donner une deuxième chance. Mais côté stratégique, là, si j'avais été à côté de PSPP, j'aurais dit... c'est parce que là, il y a de ça quelques années, à Victoriaville, ça a brassé. Les résidents sont encore fessés. Puis tu vas aller mettre quelqu'un qui a été déclaré coupable d'avoir voulu commettre un certain type d'attentat, entre guillemets, à Québec. Je trouve ça hallucinant de nous présenter ce candidat-là. Puis là, ça se déchire entre Éric Duhaime et Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais j'ai bien hâte de voir qui est-ce que le Parti libéral va présenter dans ce secteur-là. J'imagine qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Mais comme vous l'avez dit, c'est la démocratie, puis on doit respecter la démocratie. Mais il n'en demeure pas moins que pour quelqu'un qui aime bien se sentir bien au niveau moral et éthique, quand je vois ça passer, j'ai un petit peu plus de la misère. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de jaser avec le leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Son nom, c'est Moncef de Ragy. Il va rester avec nous encore pendant quelques minutes, tout de suite après cette pause.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Vous savez que je suis le gars le plus green ici à la station. Et le soir, avant de me coucher, je pars un lavage. Puis toute la
Bon, la brassée se fait pendant la nuit, puis au petit matin, quand je me lève à 6 heures, ben je mets ça dans la sécheuse.
T'as pas peur que le feu pogne?
Quand la laveuse part.
Oui. On m'a toujours dit.
Pardon?
Fais pas.
Je pense qu'elle est mêlée. Je pense pas. Quand la laveuse part.
Mais la laveuse sécheuse, on m'a toujours dit pas de brasser la nuit pendant que tu dors.
La laveuse
aussi? Oui, on m'a toujours dit.
La sécheuse, peut-être qu'il y a des possibilités de, mais la laveuse, c'est une affirmation particulière.
Salut, Audrey.
Puis si jamais il y a quelqu'un qui a allumé un incendie avec une laveuse sur la Terre ou peut-être dans la galaxie, vous pouvez me texter au 88.
C'est tellement de la belle Audrey.
971-102-1, 88-971-102-1.
Marceau le midi. Tous les jours en semaine, 11h30. Et en rattrapage, où Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo.
Il y a rien là. C'était écrit sur la feuille.
102-1. C'est payant d'écouter Boulevard 102-1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102-1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Cypress Hill le 21 mai prochain à l'Agora du Port de Québec.
Boulevard 102-1. Votre pocheur d'étiquette.
Alerte aux réductions chez Chaussures Filion. Jusqu'à lundi, on paie l'équivalent des taxes sur les souliers. Détails dans nos magasins de Québec et Lévis, chaussuresfilion.ca.
Du 6 au 23 août, c'est le Festival Juste pour rire Québec. Venez voir les galas Juste pour rire avec Billy Tellier et Tommy Néron, Véronique Claveau, Claude Legault et plus. Rire et numéro exclusif au rendez-vous. Billets en vente au AAA.com. Festival Juste pour rire en collaboration avec Loto-Québec.
Cette fin de semaine dans le Rock and Chill, le boulevard du rock et le volume à planche. Boulevard 102 vous tourne les meilleurs cover par les bands que vous aimez. Metallica par Weezer? Ben oui! David Bowie par My Chemical Romance? Le grand classique de Queen par Panic at the Disco? Comptez les covers de Bob Dylan, CCR, Elton John, Genesis, tout ça repris avec l'ADN Boulevard. Ça s'enligne pour être un gros week-end de fun, de bonnes anecdotes, puis surtout de grosses tunes. Le spécial cover toute la fin de semaine à Boulevard 102.1.
Présenté par Marlin Chevrolet Buick GMC, votre concessionnaire GM à Sainte-Foy. Du choix, du service et une équipe sur qui vous pouvez compter.
Chérie, je commande du équilibre pour demain soir. Je te prends le Bouddha bol au bœuf épicé à l'orange ou celui au tataki de saumon?
Prends-moi les deux, ça va me faire un lunch. Hey, j'aime ça quand c'est simple de même.
Équilibre-traiteur.ca. Vos dons ont un impact provincial. Cette année, les élèves du Collège des Hauts Sommets proviennent de 36 municipalités. Aidez au soutien du programme de bourse d'études. Faites un don et soutenez la réussite scolaire partout au Québec. Merci de votre générosité. Votre don fait la différence.
À Québec, un Ford, ça se penche déjà.
Devenez millionnaire chez Desjardins Ford. En mai, faites l'acquisition d'un véhicule neuf et soyez automatiquement inscrit au concours exclusif Desjardins Ford pour courir la chance de remporter 1 000 000 de points Fidélité Ford. Aussi, obtenez le F-150 2025 et le Bronco Sport 2025 en financement à partir de 0%.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins Ford.
Pièces d'auto économiques. Pour des pièces neuves garanties et les meilleurs prix. En mai, les essuie-glaces Bosch et les disques de frein BrakeMax sont à 15% de rabais. Visitez notre nouveau méga magasin au 600 rue Cambronne à Beauport, pièceséconomique.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Coudon, il t'a fait une fleur, celui-là?
Ah ben oui, c'est un hibiscus. Pour toutes vos fleurs, c'est Jardin Amel. Avec Jardin Amel, ça pousse en fou. 6029 Boulevard Amel, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Gros week-end chez Escale VR Beaumont. De jeudi à dimanche, c'est la grande vente porte ouverte. Burger gratuit sur place. Rabais jusqu'à 30 000 $ et financement à partir de 6,79%. Viens vivre l'aventure VR. Escale VR Beaumont, sortie 337 Autoroute 20.
Envie d'action et de découverte? À seulement une heure des ponts, les Etchemins vous attendent pour une escapade parfaite en famille. Plage, glissade d'eau, vélo montagne, randonnée, arrêt gourmand, festival et événements, tout y est pour bouger et s'émerveiller. Nature, plaisir et surprise au rendez-vous. Les Etchemins proches, gourmands et surprenants. Planifiez votre aventure sur tourismeetchemin.qc.ca. Tourisme Etchemin, c'est la nature à portée de route.
En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 55 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 55e anniversaire, Matelas Dauphin vous offre des économies majeures sur ses matelas plus taxes payées. Économisez 493 $ sur le matelas Silhouette, format double, en spécial à 699 $ taxes payées. C'est la vente anniversaire dans tous les matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Venez admirer de plus près le tout nouveau Tiguan 2025. Il est maintenant disponible en précommande chez Laval Volkswagen. Profitez d'une réduction de 1% sur votre taux de financement en précommandant dès aujourd'hui. Le Tiguan 2025, c'est l'alliance parfaite entre la puissance, le luxe et la technologie. Plus de chevaux vapeur, intérieur en noyer véritable, cuir en option et une conduite franchement sportive. On peut donc dire que le Tiguan redéfinit la norme. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Cet été, plongé dans l'expérience du Festival Juste pour rire Québec du 6 au 23 août. Préparez-vous pour les soirées des Grands Biens Cuits animées par Virginie Fortin, Guillaume Quineau et plus. N'attendez plus, les billets sont déjà en vente sur AAA.com. Festival Juste pour rire en collaboration avec Loto-Québec.
Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais... sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à télé? Puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix.
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
De ce soir, c'est Moncef Doragie, le leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Là, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment ça fonctionne, vos horaires, entre votre comté et l'Assemblée nationale, les vacances de Noël, les vacances d'été? Ça fonctionne comment, un député? Parce que j'en ai connu un, moi, en Beauce, qui travaillait du matin jusqu'au soir. Des fois, j'avais l'impression que si j'avais travaillé autant que lui, je serais en fin de vie. Là. Son nom, c'était Janvier Grondin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Janvier Grondin, mais c'était vraiment un bon monsieur. Puis il me disait, Yann, ma job est assez simple, sauf que c'est long et c'est de longues heures. Donc, je commence à prendre mes courriels à 6 heures du matin. Puis des fois, à 23 heures, minuit le soir, je réponds à d'autres courriels et le lendemain, c'est à recommencer. Et ça, des fois, c'est du 7 jours sur 7. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit autant de travail, votre métier de député?
Ouais, écoutez, c'est la même chose jusqu'à maintenant. Ce qui se rajoute, c'est les réseaux sociaux. C'est que c'est fou maintenant, les gens qui nous interpellent et ils s'attendent tous à une réponse. Donc, comment ça marche? C'est que chaque député a un bureau de comté. Et là où je suis aujourd'hui, j'ai une équipe que j'apprécie parce qu'ils font un travail exceptionnel. C'est eux qui sont en contact avec les citoyens, donc pour régler les enjeux au niveau du comté, animer la vie communautaire aussi, parce qu'on a beaucoup d'organismes à but non lucratif avec qui on collabore et qu'on travaille, et les représentations dans les événements. On a beaucoup d'événements, vendredi, samedi, dimanche, demain j'ai un événement. Il y a beaucoup d'événements des organismes communautaires. Ils veulent tous que tu sois là, que ce soit pour les aînés, les jeunes, moins jeunes, des événements de célébration aussi dans le comté. Donc, le rôle de représentation, parce qu'à part les enjeux politiques, il y a un rôle que je suis le député, donc un élu de la région. Tous les enjeux, on les a. Et à Québec, ben, j'ai aussi une équipe que j'ai la chance de travailler avec au niveau du bureau du leader. Ça touche l'ensemble de l'appareil de l'État, les crédits parlementaires, les crédits budgétaires, le contrôle de l'action gouvernementale, les projets de loi, les motions sans préavis, l'étude article par article des projets de loi, le suivi des projets de loi, tout ça c'est à Québec. Donc, pour résumer ça dans une seule phrase, notre défi c'est trouver le temps, parce que le temps malheureusement il est très limité et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Il faut être dédié, il faut aimer, et c'est de plus en plus difficile. Et si tu n'as pas un équilibre, et je le dis très bien, tous ceux et celles, je ne veux pas décourager personne, on veut des gens impliqués en politique. Mais il faut savoir faire un équilibre. L'équilibre premier, c'est santé mentale, le corps, si le corps lâche, c'est impossible de faire ce que tu veux. Parce que la famille, ça, c'est la base. Il ne faut pas se lancer en politique, c'est pas réglé à l'intérieur de ton couple ou de ta famille, parce que tu seras plus disponible. Il faut absolument mettre ça en tête. J'ai raté beaucoup d'anniversaires, j'ai raté de mes enfants, j'ai raté beaucoup de fins d'année scolaire parce que j'avais des événements dans mon comté, dans les écoles où je dois aller remettre des certificats. Il faut absolument avoir une famille très solide, ta conjointe, ton support numéro un, les enfants, il faut discuter avec les enfants, il faut leur dire l'heure juste. J'ai eu une bonne discussion avec mes enfants, notamment à l'époque de la course leadership. Et une fois ça s'est réglé, une fois à ton bureau, que ce soit à Québec ou ailleurs, dans n'importe quelle région au Québec, il faut absolument prendre soin de la santé, s'entraîner, manger d'une manière équilibrée, un corps sain, dans un esprit sain, c'est hyper important, sinon ton corps va te lâcher et ça, c'est très, très difficile.
Mais vous êtes un passionné de politique, là, du moins quand on suit votre travail à l'Assemblée nationale. Vous travaillez extrêmement fort, puis les médias semblent s'en rendre compte puisqu'il y a toujours un papier qui concerne Monsef de Ragy dans le journal, que ce soit dans le Journal de Québec, que ce soit dans la presse, que ce soit Radio-Canada, Journal de Montréal. Vous êtes partout, vous travaillez fort. C'est quoi il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Monsef de Ragy, dans ses loisirs, ses sports? Vous pratiquez quel sport?
En fait, j'ai trois. Je joue au soccer avec, je peux dire pas une ligue, mais des amis de longue date. On joue, ça fait 20 ans. Quand on était jeune, on jouait à l'intérieur sur le plancher. C'est très dur pour les articulations, mais de plus en plus qu'on vieillit tous ensemble, maintenant c'est sur un terrain gazonné.
Oui.
Donc, pour moi, c'est hyper important, casser la semaine en jouant à un rythme très accéléré un peu. Ça m'arrive de faire un 6,5 jusqu'à 7 km de course rapide, moins rapide, arrêt, accélération chaque semaine. Ça, c'est vraiment chaque semaine. J'aime marcher, je marche beaucoup. Le vélo, l'été, pour moi, c'est ce que je fais chaque jour. Mais avec mes enfants et passe-temps, je joue beaucoup aux échecs. Je suis un grand, grand amateur d'échecs et stratégie, que ce soit quand je joue avec les blancs en mode attaque, que je joue en défense avec les noirs. J'aime jouer aux échecs, donc c'est les trois activités. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire Monsef, les échecs, ce n'est pas un sport. Oui, je vous entends, mais pour moi, c'est un sport où j'entraîne mon cerveau.
Oui, exact. Mais il y a des compétitions d'échecs parfois où les plus grands de ce monde se rencontrent. Puis je peux vous dire qu'à la fin des tournois, les gars et les filles qui jouent aux échecs dans ces tournois-là sont complètement vidés, comme s'ils avaient couru un marathon de 42 km. Ah, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous faites en dehors de la politique, parce que tu sais, on vous regarde et on se dit, mais quand est-ce qu'il arrête, Monsieur de Ragy? Puis je parlais la semaine dernière avec Pascal Bérubé du Parti québécois, qui est un gros travaillant aussi. Puis lui, c'est assez particulier puisque, bon, sa résidence et son comté, c'est dans le secteur de la Gaspésie. Après ça, il travaille à l'Assemblée nationale. Puis son amour, la femme de sa vie, est à Montréal. J'y ai demandé comment il faisait de kilométrage par année. Il n'a jamais voulu me répondre, là. Mais son garde-robe doit être dans sa voiture, là.
Ah, c'est sûr. Mais chacun de nous a ses défis, vraiment, chaque élu. Je vois des élus comme Marwa avec ses enfants, Greg aussi, Madoua aussi. Peu importe, chaque collègue a ses défis, ses propres défis. J'ai des collègues qui s'occupent de leur famille, de leurs parents. Chaque élu a une situation. À chaque fois que vous avez un élu en face, là, c'est vous creuser un peu avec deux, trois questions. C'est des êtres humains très fragiles, c'est des gens sensibles, c'est des gens qui ont d'autres défis aussi. Là. Donc, moi, je salue l'ensemble de mes collègues, les 124 autres collègues, ils font un travail exceptionnel dans un contexte très difficile, avec la pression qui vient avec les réseaux sociaux. Je vous le dis là, c'est du travail.
Mon député provincial dans mon comté, il peut régler quel problème? Je suis un citoyen, je suis un payeur de taxes, je sais que la ville peut m'aider pour certains dossiers, mais le provincial, il peut m'aider pourquoi? Mon député provincial peut m'aider pourquoi exactement?
Tout ce qui touche les lois au niveau provincial, mais parfois, écoutez, genre aujourd'hui, le cas que j'ai eu devant moi, c'est un cas avec Hydro-Québec. Parfois, il y a des enjeux de facturation, il y a des enjeux par rapport à des enjeux au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi, ses nécessités, enjeux d'immigration, on en a aussi, réseau de la santé avec le CIUS, placement de personnes âgées dans CHSLD. on voit toutes sortes de choses. DPJ, écoutez, je vous dis, juste cette semaine, j'ai 4-5 cas. C'est les dossiers que je viens de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai quelqu'un, Didier. Une fois la personne décide de nous contacter, ben, il y a des divulgations d'informations, il nous donne le droit de parler en son nom. Et après, on contacte le ministère, soit directement, parce qu'il y a le député a un accès direct au ministère. Parfois, quand ça bloque, ben, parfois, on fait interpeller même les ministres. Écoutez, dans le choix des écoles, parfois, j'ai un enjeu d'école secondaire dans mon comté. Donc, j'essaie de travailler avec M. Bernard Drainville pour trouver une solution. J'ai des enjeux, par exemple, de santé mentale, de disponibilité d'air ouverte et d'air ouverte pour les personnes itinérante. Je travaille avec le ministre responsable pour trouver des solutions avec le CIUS. Accès à la première ligne. Je n'ai pas de clinique GMR, donc il faut travailler avec le ministère, trouver des solutions. C'est beaucoup de choses qu'on fait parfois directes avec des ministres pour répondre à des citoyens. C'est des contacts directs avec l'ensemble des ministères, peu importe le ministère. Et parfois, ben, si c'est complexe, et ça prend une intervention d'un ministre, ben, écoutez, c'est le dossier embêtant et qu'il y a une erreur administrative, on n'est pas à l'abri des erreurs, ben, on contacte le ministre pour trouver des solutions à nos préoccupations.
Puis, comment ça fonctionne? Parce que, bon, si un député est élu sous la bannière libérale, puis c'est le gouvernement libéral qui est en place, je comprends que ça doit faciliter beaucoup de choses parce que c'est la même couleur politique. Mais quand, dans votre cas, vous êtes dans l'opposition, vous avez des dossiers dans votre circonscription, votre objectif, c'est de vous faire réélire pour continuer à représenter votre circonscription, vous voulez faire un bon travail. Mais de l'autre côté, le ministre qui est en place, qui n'est pas de la même couleur que vous, il n'est pas la même couleur de chandail que vous. Est-ce que c'est plus complexe dans ce temps-là où les ministres font pas de différence entre équipe ou pas équipe? On essaie d'aider le plus possible le Québécois qui a besoin d'aide.
Ben écoutez, premièrement, le bureau de comté n'a pas de couleur politique. Je suis le député de tout le monde. Il n'y a pas de drapeau du Parti libéral ou de la CAQ ou du PQ quand tu rentres dans n'importe quel bureau de député. On est là pour servir les citoyens. Ça, c'est un point extrêmement important. Quand on a un enjeu ou dans un dossier, là, on ne va pas aller chercher est-ce que le citoyen a voté pour X ou Y. Là. C'est un citoyen qui est en face de nous. Et de l'autre côté, l'administration est là pour régler les problèmes. Je n'ai pas vu aucun fonctionnaire me répondre « Écoutez, vous êtes député du Parti libéral, on ne va pas régler votre problème. Ça, là, ça n'existe pas. » Et parfois, je vous le dis, dans pas mal de cas, la relation avec les ministres quand il s'agit d'un dossier citoyen où, je vous le dis encore une fois, le dossier est embêtant, l'erreur existe, l'erreur parfois, il n'y a personne qui est à la, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. En général, c'est le citoyen, on est tous là pour les citoyens, que l'on soit à l'opposition ou au gouvernement, je n'ai pas vu vraiment un clivage par rapport à ça. Parfois, il y a des problèmes profonds. Je vous donne l'exemple. Moi, j'étais interpellé pas mal dans mon comté par rapport à la taxe sur le gain en capital. Mais ça, c'est une décision du gouvernement. Là, maintenant, je dois expliquer aux citoyens que malheureusement, c'est une décision du gouvernement. Ils veulent aller de l'avant pour s'arrimer avec le fédéral. Moi, je suis contre et notre formation politique, elle est contre. Mais je ne peux pas, je n'ai pas un moyen pour imposer ça au gouvernement. La seule chose, c'est qu'en 2026, s'il y a un nouveau gouvernement, ben nous, on ne croit pas qu'on doit augmenter la taxe sur le gain en capital. Donc, la majorité des cas, on essaie de régler le problème des citoyens parce qu'encore une fois, l'ensemble des 124, 125 élus sont là pour les bonnes raisons. C'est pour régler les problèmes des citoyens. Parfois, il y a des divergences d'opinion quand il s'agit de politiques publiques menées par le gouvernement versus les oppositions.
Mon chef de régie suit activement la politique provinciale. Est-ce que vous suivez la politique municipale, la politique fédérale puis internationale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne en général, la politique?
Oui, j'aime beaucoup la politique internationale, ouais. Ce qui se passe. De mon jeune âge, j'étais toujours quelqu'un qui aimait ce qui se passe au niveau du monde entier, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Je suis un gars qui est très, très, très Je lis beaucoup, surtout sur les transformations des sociétés. On parle beaucoup des pays en voie de développement, mais il y a quelque chose qui se passe en Asie. Il y a des choses qui se passent en Afrique, beaucoup de changements. Et l'avenir, je le dis très, très bien. L'avenir pour nous, en tant que nation d'entrepreneurs, c'est vraiment de regarder du côté de l'Asie et de l'Afrique. Politique municipale, je suis très proche de mes maires. Oui, ça me préoccupe un peu parce que c'est un gouvernement de proximité et il gère directement vos taxes municipales et mes taxes aussi. Au niveau fédéral, oui, surtout côté dépenses gouvernementales, ça m'inquiète. Les dernières années du gouvernement Trudeau, et j'espère que M. Carney va prendre des notes, que c'est trois fois que M. Trudeau, au nom du Parti libéral du Canada, ils ont gouverné. Et malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de création de richesses. J'ai vu des budgets de dépenses et de dépenses. Je ne suis pas, je pense que vous me connaissez assez là, où je me situe sur l'échiquier politique. Ça ne prend un peu de la raison, mais aussi créer la richesse. Si on veut